Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. S'il est un secteur qui ne souffre pas de la crise en Grèce, c'est bien le tourisme. Plus de 27 millions de visiteurs sont attendus cette année, alors que les chiffres étaient déjà en hausse de 10% l'an dernier. Les caisses de l'État se remplissent grâce à la collecte de la TVA, la taxe sur les valeurs ajoutées qui est en hausse partout, sauf dans les îles où les professionnels renâclent à tout déclarer. Comment collecter l'impôt de manière efficace? C'est le reportage de Charlotte Stevenard.
Il est 7h du soir et c'est bientôt l'heure de pointe pour cette taverne très touristique non loin de la place Syntagma à Athènes. La propriétaire explique qu'ici les contrôles des agents fiscaux sont nombreux.
Ils viennent, ils regardent le reçu pour voir s'il est bon. Ils vont aux tables et regardent les produits.
Combien de fois par an?
Deux ou trois fois par an.
C'est beaucoup.
Nous sommes dans le centre. Ils viennent trois ou quatre fois. Ils regardent le total, s'il est bon, s'il correspond à la réalité.
La taxe sur la valeur ajoutée est un revenu important pour l'État grec. Quand un commerçant ne donne pas de reçu, cela signifie qu'il ne la déclare pas. Dans une des allées de Monastira, qui est un des quartiers les plus touristiques de la ville, allemands, néerlandais ou encore américains passent de boutique en boutique. Un homme très âgé est venu remplacer son fils dans le magasin qu'il lui a légué. Lui est contrôlé environ une fois par an, de façon inopinée aussi.
Parfois, ils viennent et font des contrôles dans les magasins. Parfois, ils demandent aux clients de leur montrer leur reçu. Ils accostent beaucoup de gens pour voir ce qu'ils ont dans leur sac, voir s'ils ont un reçu et voir où ils ont acheté la marchandise.
Sur les 5 premiers mois de l'année, les objectifs du gouvernement ont été atteints en termes de revenus de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf sur certaines îles. Si Athènes est l'objet de nombreux contrôles, en revanche, dans les îles, les recettes de l'État ont donc chuté alors qu'il y a eu une hausse des taxes. À la Fédération grecque du tourisme, on ne dit pas que cette hausse justifie l'augmentation de l'évasion fiscale sur les îles, mais le directeur de communication, Xenophon Petropoulos, souligne que cela n'aide pas.
Toutes les taxes ont été augmentées cette année. La taxe sur la valeur ajoutée, sur l'hébergement, la restauration, les transports. Cette taxe a été augmentée de façon très importante. Pour l'hébergement, de 6,5% à 13% du prix. Pour la restauration, de 13% à 23% et ensuite à 24%. Et en plus, la réduction de 30% de la TVA pour certaines îles a été supprimée. Donc, ils ont perdu cet avantage.
Pour le ministère des Finances, c'est une autre mesure qui a encouragé les fraudeurs. À l'automne dernier, curieusement, les créanciers ont demandé à Athènes de baisser les amendes. Ils estiment que cette politique répressive ne fonctionne pas et qu'il vaut mieux créer une conscience fiscale. Mais pour le ministère des Finances, c'est une vision qui n'est pas adaptée à la réalité grecque. Et en attendant, il a décidé de renforcer les contrôles et d'appliquer plus systématiquement un article du Code des impôts qui date de 1997. Il permet de fermer l'entreprise durant une période qui va de 1 à 30 jours. Pour le commerçant de Monastira, qui cette dernière décision ne va pas dans la bonne direction.
Fermer un magasin, ce n'est pas une bonne mesure, car le propriétaire a des traites à payer, pas seulement la TVA. Si on impose une fermeture, c'est trop dur. Le propriétaire ne peut payer ni la TVA, ni ses charges. Une amende, ça me paraît mieux.
Selon lui, il existe d'autres solutions, notamment renforcer les effectifs des contrôleurs fiscaux qui sont au nombre de 2100 personnes.
Il faut qu'ils fassent des contrôles plus souvent, qu'ils renforcent le dispositif et rendre tout électronique. Avec ça, tout deviendrait transparent.
Dans un projet de loi prévu pour être déposé cet été, le gouvernement veut rendre les terminaux de paiement électronique obligatoires pour certaines professions afin que les paiements soient plus faciles à tracer. Un point positif pour Xenophon Petropoulos de la Fédération du Tourisme.
Nous soutenons cette mesure depuis 10 ans déjà. Nous pensons que les transactions électroniques vont permettre de compenser le manque de revenus issu de la taxe sur la valeur ajoutée. Cela sera plus difficile pour un commerce de ne pas payer de taxes. C'est une mesure qui, selon nous, sera positive.
Selon le ministère des Finances, la mise en place du contrôle des capitaux qui limite les retraits d'argent a déjà incité les Grecs à utiliser plus leurs cartes bancaires. Obliger certaines professions à s'équiper de terminaux de paiement électronique doit permettre de généraliser cette pratique, une mesure qui vise surtout les professions libérales comme les médecins et les avocats.
Will be proud to say, I am an European.
Le traumatisme et la douleur qui ont suivi l'attaque terroriste sur la promenade des Anglais à Nice ne peuvent masquer une autre conséquence de ces attentats. La violence a un coût économique et touristique. Les pays qui ont été récemment touchés, comme la Belgique, la Turquie ou la France, devront compter avec cette peur et le paysage touristique sur le continent européen commence déjà à se recomposer, comme nous allons le voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Quelles ont été les conséquences des précédents attentats en France sur le tourisme ?
Sans doute parce qu'ils étaient très ciblés, les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher n'ont pas eu vraiment de conséquences économiques. Il n'en a pas été de même pour les attentats de novembre dernier qui visaient une foule indifférenciée. Si leur impact sur l'économie générale via la consommation ou le moral des ménages a été assez bref, il a été beaucoup plus fort en termes d'activité touristique, en particulier, bien sûr, celle de la métropole parisienne. Ainsi, selon les chiffres de l'Office du tourisme de la capitale, le taux d'occupation des hôtels marquait au premier trimestre 2016, un recul de 6,2% par rapport aux chiffres du premier trimestre 2015. Et l'on a constaté une très forte chute de 30 à 50% de la présence de certaines nationalités de touristes, comme les Japonais, les Chinois, les Russes ou encore les Italiens. Cette déprime s'est prolongée tout en s'atténuant, comme le montre l'étude Forward Case. Du 14 novembre 2015 au 26 février 2016, les réservations cumulées ont chuté de 22% par rapport à la même période de l'année précédente. En mars, la baisse est revenue à 8%, mais s'est de nouveau accentuée en mai, moins 15%, avant que la Coupe d'Europe de foot ne vienne replacer en progression les chiffres des réservations. À noter que la déprime parisienne a été également ressentie à Bruxelles, et cela avant même l'attentat meurtrier de l'aéroport et du métro de Bruxelles le 22 mars.
Et le marasme du tourisme à Paris s'est-il répercuté sur toute la France ?
Bien sûr, Paris est naturellement la porte d'entrée d'un périple aérien vers l'Hexagone et draine 30 des 84 millions de visiteurs étrangers annuels en France. Selon le baromètre des entreprises de voyage SNAV, les commandes de voyage pour juillet-août de cette année marquent une baisse annuelle de 4,2% pour la France métropolitaine. On imagine bien que ce recul va s'accentuer avec l'attentat de Nice.
Et à quel point ?
Sans doute fortement, car la Côte d'Azur est la destination touristique française numéro 2 après Paris. Et Nice est la quatrième ville la plus fréquentée avec 4,3 millions de visiteurs annuels. Surtout, la répétition des attentats en France et leur extension géographique à la province ne peut que déterminer de nombreux touristes à éviter l'Hexagone comme ils évitent déjà plusieurs pays d'Europe.
Alors justement, Daniel, quels sont les pays les plus touchés ?
Alors de janvier à mai, comparé à la même période de 2015, les agents de voyage indiquent que les réservations cumulées ont diminué de 19% au Maroc, de 67% en Tunisie et de 71% en Turquie. Globalement, l'Est et le Sud de la Méditerranée sont désertés du fait de l'insécurité, de l'instabilité ou encore de la crise économique. Il n'est donc pas étonnant que les flux touristiques mondiaux se réorientent vers d'autres continents, notamment l'Asie, ou bien vers d'autres pays européens offrant des conditions de dépaysement, d'ensoleillement ou de richesses culturelles attractives.
Notamment l'Espagne ou l'Italie, j'imagine.
L'Espagne ou le Portugal, beaucoup plus que l'Italie, la péninsule étant peut-être jugée comme un théâtre propice à de futurs attentats. Si l'on en croit les tendances mesurées par la Commission européenne du voyage, la fréquentation touristique entre janvier et mai 2016 s'est accrue par rapport aux 5 premiers mois de 2015 de 13% en Espagne et de 14% au Portugal. Et pour ce dernier pays, les agents de voyage français constatent même un bond de 27% des réservations. Toujours de janvier à mai, l'Islande a attiré 35% de touristes supplémentaires, la Slovaquie 24% et Chypre 21%.
Et peut-on dire que le risque terroriste incite plus d'Européens à renoncer à leurs vacances ?
Oui, c'est ce qui ressort du dernier eurobaromètre Ipsos Europe Assistance. Alors que la conjoncture tend plutôt à s'améliorer, 54% des Européens avaient, en avril, l'intention de prendre des vacances d'été. L'an dernier, ils étaient 61%. Et ceux qui partent restent plus volontiers dans leur pays, comme 74% des Italiens contre 62% seulement en 2015. Dans plusieurs pays, une proportion importante de vacanciers désireux de partir à l'étranger a renoncé à se rendre en France à cause du risque terroriste. C'est le cas de 36% des Brésiliens, de 20% des Américains et de 17% des Italiens. Et ils l'ont fait, bien sûr, avant l'attentat de Nice.
On peut donc en conclure que le secteur touristique français va souffrir.
Alors cela paraît évident, Frédéric. Et c'est d'autant plus préoccupant pour l'économie que ce secteur génère 7% du PIB français. Si le tourisme devait se contracter de 10%, l'impact sur le PIB atteindrait donc 0,7%. Bon, même si un recul de cette ampleur est pessimiste et que le pire n'est jamais sûr, la prévision du gouvernement de réaliser 1,7% de croissance cette année paraît fort aléatoire.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Des vaches qui passent librement dans les bocages, verdoyant l'image pourrait faire penser à la Normandie. Mais nous sommes sur l'archipel des Açores, des îles portugaises situées au milieu de l'Atlantique et qui fournissent 30% de la production laitière du pays. Depuis avril 2015 et la fin des quotas laitiers européens, les éleveurs ont dû s'adapter. Le prix du litre de lait a chuté. Il faut donc rationaliser la production et s'ouvrir à de nouvelles activités. Reportage sur l'île de São Miguel, principale productrice de lait de l'archipel, signée Anastasia Becchio.
C'est l'heure de la traite pour les 50 vaches de João Miguel das Rochas qui pèsent tranquillement dans les pâturages. Une insouciance qu'aimerait partager l'éleveur, mais depuis plus d'un an, le cœur n'y est plus.
On est pris à la gorge, on est mal si ça continue comme ça. On a été élevé à la dure. Les choses ont toujours été plus ou moins difficiles, mais avant, tout était moins cher. On nous a demandé de nous adapter, on l'a fait. Certains se sont même endettés. Puis on a mis fin au quota, et d'un jour à l'autre, boum ! Et les dettes à la banque s'accumulent.
Indifférente aux ennuis de son propriétaire, les bêtes au pelage noir et blanc se dirigent vers deux citernes mobiles reliées aux appareils de traite installés sous un auvent dans le champ. Le fils de João Miguel prépare les machines. Son père espère qu'il reprendra un jour l'exploitation, même si l'avenir est très incertain, avec un prix du lait qui a perdu 25% de sa valeur en moins de 2 ans.
On n'a pas le choix, on doit tenir. Mais les vaches, c'est pas comme des robinets. S'il suffisait de leur donner moins de nourriture pour qu'elles donnent moins de lait. Bientôt, on n'aura plus d'argent pour les médicaments, les rations, le gasoil. Tous ces produits pour les vaches, c'est des frais. Avec rien, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Dans son bureau, où il exhibe fièrement les trophées remportés par ses vaches au concours agricole, Georges Rita ne ménage pas ses efforts pour attirer l'attention des autorités locales et européennes sur la crise que traverse le secteur du lait. Les producteurs des Açores bénéficient du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de l'Union européenne. Mais ces fonds sont loin d'être suffisants, constate le président de l'association agricole de São Miguel.
Nous sommes en train de vivre une situation dramatique. La baisse substantielle du prix du lait fait que les producteurs des Açores sont en train de tout perdre. La situation ici est beaucoup plus grave car nous n'avons pas d'alternative à la production laitière et à l'économie qu'elle génère. 50% de l'économie des Açores dépend du secteur laitier.
Ici, c'est la Fajantsima, Freguesia. À 3 km de Ponta Delgada, la ville principale.
Vous êtes bien situé là, hein ?
Oui, oui, très bien.
Et puis vous avez une vue magnifique avec vue sur la mer.
Quand le temps laisse, parce qu'il y a beaucoup de jours avec des nuages et on ne voit rien. C'est pour cela que notre île c'est vert, parce qu'il y a des humidités. S'il n'y a pas humidité, il n'y a pas herbe. Et les coûts de production sont plus hauts. Et on peut survivre pour cela.
Grâce à l'herbe verte.
Grâce à l'herbe verte.
Si Eugenio Camara a encore le sourire, c'est qu'il arrive un peu mieux à tirer son épingle du jeu. Cet éleveur à la tête d'une exploitation de 100 vaches laitières avec 2 employés a cherché à diversifier son activité en se lançant dans l'agrotourisme grâce à l'aide de fonds européens. Mais ce dont il est le plus fier, c'est le logiciel informatique qu'il a mis en place pour la gestion de son exploitation. Chaque vache est équipée d'un bracelet électronique qui permet de régler sa prise de compléments alimentaires en fonction de sa production de lait.
Ici, ça sera la salle de traite et les lèvres par ici. Il y a 8 vaches, 8 là, 8 ici. Il y a également le concentré. L'ordinateur, il y a un dispositif là-haut qui fait l'administration à chaque vache. Je fais une définition dans l'ordinateur. Si la vache diminue la production, il diminue le concentré.
Donc là, c'est les vaches qui ont fini de manger.
Fini de manger, la traite se complète. Là, c'est les autres qui vont faire la traite maintenant. Ils sont entrés, les concentrés commencent à tomber. Elles sont identifiées quand il entre. Et quand elle vient à son place, le concentré tombe.
Grâce aux investissements réalisés, Eugenio a aussi pu intégrer un programme mis en place par l'industriel Bell pour valoriser le lait. Le million de litres qu'il produit annuellement est entièrement vendu au groupe français. Et il touche 3 centimes de plus par litre qu'un éleveur ordinaire. Ça n'est pas le grand luxe, mais ça lui permet de survivre.
Dans les Açores, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La situation s'est équilibrée, mais on attend des jours meilleurs.
En attendant, Eugenio compte développer l'accueil des touristes dans sa ferme. L'arrivée des compagnies aériennes à bas coût aux Açores depuis l'été dernier devrait lui donner un petit coup de pouce.
Qui êtes-vous ?
Je suis moi.
Lui, c'est moi. Et je suis vous. Expliquez-vous, je vous prie.
Les Jeux Olympiques de Rio accueilleront pour la première fois cet été une délégation kosovare, une première pour ce petit pays de 2 millions d'habitants, mais le plus jeune État européen entend bien se faire remarquer et rêve d'une médaille d'or en judo qui viendrait couronner des années d'efforts. Les explications de Simon Réco.
Pour les athlètes kosovars, cet été restera forcément un moment spécial avec leur première participation aux Jeux Olympiques. Fin 2014, le CIO a fini par accepter que le Kosovo devienne son 205e membre au terme d'une longue bataille administrative liée au statut du pays. Déclaré unilatéralement le 17 février 2008, l'indépendance du Kosovo divise toujours la communauté internationale. À Rio, la délégation kosovare espère faire bonne figure malgré les moyens dérisoires dont elle dispose. Sa principale chance de médaille repose sur les épaules de la judoka Maylinda Kelmendi qui a été désignée porte-drapeau. Née à Peja dans l'ouest du Kosovo en 1991, la jeune femme règne depuis 2013 sur le judo mondial dans la catégorie des moins de 52 kilos. Cette année-là, elle remporte son premier titre de championne du monde, déjà sur les tatamis carioca. Une première couronne mondiale qui est aussi la toute première de la jeune nation balkanique. Maylinda Kelmendi avait pu participer aux JO de Londres, mais sous les couleurs de l'Albanie dont elle a aussi la nationalité. En 2014, la jeune kosovare fait encore plus fort en devenant championne d'Europe puis championne du monde des moins de 52 kilos, deux victoires qui lui valent d'être désignée judoka de l'année. Blessée en 2015, elle ne peut défendre ses titres, mais depuis qu'elle est revenue à la compétition, la tornade kosovare fait de nouveau chuter toutes ses adversaires. Alors quand Maylinda Kelmendi fera son entrée sur les tatamis de Rio, ce sera avec le statut de grandissime favorite. Et si elle remporte l'or, ce sera une nouvelle victoire historique pour elle comme pour le Kosovo.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Dès demain et pendant tout le mois d'août, Accent d'Europe vous propose de réécouter quelques-uns de ses meilleurs reportages sur RFI et notre site rfi.fr.
Autour de la question.